Radio Pratique,
24 et 25 janvier 2020.
Week-end TJP.
Voir, écouter,
expérimenter,
se détendre. Des spectacles,
des ateliers,
des rencontres,
des expériences artistiques pour toutes les générations. Avec
Radio Pratique,
Alexis Zimmer,
Caterini Antonakaki et la main d'œuvre,
Jeanne Mordoge,
Aurélie Maisonneuve et le théâtre Athénor,
l'équipe du TJP,
Michael Croc,
Christophe Leblay,
les participants et les participantes du Parcours Pro,
Jérémy Damian
et Julien Bruno.
Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à Radio Pratique et au TJP pour ce deuxième week-end de la saison. Ce week-end, la programmation des spectacles de Caterini Antonakaki et Aurélie Maisonneuve, la conférence d'Alexis Zimmer, le parcours pro de Jeanne Mordoge, annoncent un week-end placé sous le signe de l'attention aux petits, à ce qui est fugace, à ce qu'on ne voit pas d'emblée, mais qui demande à être convoqué, observé et capté. On lève le voile sur des mondes invisibles à l'œil nu, qui coexistent pourtant avec notre monde, l'altèrent et le perturbent de manière imperceptible, de notre ombre au microbiote. Dès lors que l'on porte notre attention sur un objet ou un sujet choisi, que l'on se rend disponible à la rencontre, avec nos corps, notre intellect et nos sens, l'échelle de notre perception évolue. La transformation devient un muscle, les microbiotes une espèce en danger, notre ombre, un regard sur nous-mêmes, la voix, une expérience du temps. Nous voilà donc installés autour de ce plateau radio qui pendant 2 jours se fera l'écho de nos différents parcours. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs au micro pour parler, divaguer ou raconter les chemins qu'auront emprunté votre attention ou qui sait son ombre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 et pour commencer, nous accueillons autour de la table Jérémy Damian, rédacteur en chef du numéro 4 de la revue Corps Objet Image sur l'attention, et Alexis Zimmer, anthropologue, qui va nous parler d'un peuple invisible logé dans nos intestins. Jérémy.
Alors je vais peut-être commencer par déglutir, puisque nous y avons été invités. On s'est aussi épousté les microbes, mais précisément une des choses dont on va discuter ensemble avec Alexis Zimmer pendant à peu près 1 heure, hein, sur un format qui consistera en gros à échanger ensemble pendant 40 minutes, et puis on aura 20 minutes de discussion avec les personnes ici présentes. Peut-être qu'il s'agira précisément de ne plus trop s'épousseter les microbes, parce qu'on peut voir que les microbes, les bactéries nous servent en permanence. D'ailleurs, elles sont là, elles sont nombreuses, elles nous écoutent, elles sont là ce soir aussi. Alexis Zimmer, je te présente. Tu es philosophe et biologiste de formation, chercheur pour l'instant au Centre Alexandre Coiré, hébergé par le HESS. Tes domaines de recherche sont plutôt croisent ce qu'on appelle les Science and Technology Studies, donc sociologie des sciences, mais aussi l'histoire environnementale, histoire de la santé. Et peut-être que l'invitation qui t'a été faite ici, elle prend place dans une série d'autres invitations qui sont faites à ceux et celles que l'on nomme les grands témoins, et qui viennent rencontrer le TJP, à la fois sa programmation, le projet, les lieux, tout ce qui se passe ici, le long de week-ends successifs, comme ça, qui ponctuent la saison. Et je me rappelle nous avions accueilli ici l'artiste François Deck, qui disait que lui, le nœud de son travail, c'était de pouvoir favoriser les dispositifs où on mutualise les compétences et les incompétences. Alors nous, les incompétences, on en a pas mal, j'espère que toi aussi. Peut-être le bout par lequel j'aimerais prendre les choses, c'est présenter, non pas thématiquement, ce qui a été ton travail jusqu'ici, en tout cas tel qu'on le connaît dans le grand public par l'objet de publication, mais aborder quelque chose qui peut-être rassemble les deux objets un peu évidents qui ont fait d'une part l'objet d'un livre qui s'appelle Le brouillard toxique, qui est apparu aux fameuses éditions Zone Sensible il y a de ça quelques années, sur une vague de brouillard industriel et tueur dans les années 30. Et puis aujourd'hui, pour un travail en cours sur une enquête qui a fait l'objet d'une publication qui s'appelle « Collecter, conserver, cultiver des microbiotes intestinaux ». J'ai l'impression que une des choses communes à ces deux travaux-là serait un intérêt pour des objets assez peu tangibles, a priori. On pourrait dire aussi que ce sont des objets qui ont des ontologies un peu floues ou fragiles par rapport à celles qu'on a l'habitude de prendre en considération. Quand on parle du brouillard, des microbes, on est dans des choses qui sont peut-être plus difficilement attrapables que quand on parle d'un gobelet en plastique ou de je ne sais pas quel autre objet matériel ou d'un corps. Et donc, ton regard se porte sur ces objets-là, mais aussi sur la constellation des voix et des savoirs qui se constituent autour pour qualifier ces corps-là et ce qui vient faire à un moment donné problème. Et tout ça est orienté vers une forme de questionnement autour des modes d'interaction entre les corps et, pour le dire largement, l'environnement, ou peut-être les environnements, je ne sais pas comment tu... Voilà. Et je me rappelle aussi un des axes quand même centraux de brouillard toxique, c'était vraiment venir questionner les formes d'expertise légitimes qui on voit sur ces sujets-là, peut-être aussi du coup les formes de contre-expertise qui existent, qui parfois sont minoritaires et assez peu visibles, mais qui existent, et d'interroger aussi comment c'est à chaque fois ces objets, les voix qui se constituent autour, comment est-ce qu'elles sont révélatrices de certaines tendances de non-société, quant à leur rapport au corps, quant à notre rapport à l'environnement, à nos milieux, et puis aux manières d'y intervenir aussi, d'y intervenir, de les évaluer, de se projeter dans leur éventuelle soutenabilité ou non. Mais l'objet de la conversation ce soir, donc, c'est de partir de cette recherche en cours sur le microbiote. Alors, il se passe quelque chose d'assez étonnant depuis quelques années, c'est qu'on a l'impression que le monde entier est devenu passionné par la question du microbiote, notamment suite à la publication de ce livre d'une jeune autrice allemande qui s'appelait « Le charme discret des intestins », je crois. Mais est-ce que, peut-être pour repréciser un peu de quoi il sera question, est-ce que tu peux nous... rappeler ou préciser un peu, décrire en fait, surtout, qu'est-ce que le microbiote ? Qu'est-ce qu'un microbiote ? Et a priori, il sera question de pas mal de microbiotes différents ici.
Bah, tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de me suivre sur ce qu'au départ, l'invitation portait davantage sur brouillard toxique. Et je vous avais fait la proposition de plutôt... d'envisager une recherche en cours, parce que j'avais envie de parler d'autres choses et j'avais envie de faire exister effectivement d'autres questions. Et je vous remercie d'accepter. Donc pour moi aussi, c'est la première fois que j'en parle sur ce format-là, en tout cas. Donc en termes d'incompétence ou de maladresse, je crois que ça va me donner certainement l'opportunité aussi de vous montrer à quel point, oui, j'en ai plein des incompétences. Je les cultive. Plutôt, moi j'aime bien le terme de maladresse, parce que c'est un terme justement qui viendrait un peu en opposition à celui de maîtrise, qui pourrait un peu caractériser notre rapport en fait aux pratiques, aux comportements, aux savoirs, etc., qui caractérise donc nos sociétés. Bon, ceci dit, pour te répondre tout de suite, microbiote, microbiome, parce que ce sont deux termes qu'on utilise fréquemment, parfois de manière indifférenciée. Alors, pour être un peu technique, le terme microbiome signifie en fait est défini par l'entièreté du génome porté par des communautés microbiennes d'un milieu spécifique, c'est-à-dire dans un sol, par exemple. On va relever des échantillons de sol, puis on va les passer en fait, au tamis de toute une série de technologies relativement récentes qu'on appelle le métagénomique, et qui vont séquencer le génome de toutes les bactéries de manière relativement indifférenciée qui composent ce milieu donc, qui est un sol particulier. On fait la même chose pour les intestins. Quand je dis milieu, on peut entendre effectivement sol, air, intestin, eau, etc. Microbiote, quant à lui, ce terme en fait, évoque plutôt l'écologie complexe des micro-organismes qui composent ce milieu. Donc, c'est plus le génome, c'est vraiment l'écologie, les interactions et les espèces ou les créatures qui sont formées, qui produisent cette écologie. Alors oui, on en parle de plus en plus depuis une dizaine d'années à peu près. Et je crois que c'est précisément dû, enfin une des hypothèses, hein, enfin là il faudrait, c'est des choses qui sont encore à creuser effectivement, mais c'est notamment dû à cette nouvelle technologie de séquençage que je viens d'évoquer, qu'on appelle métagénomique. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'habituellement, typiquement le génome a été une entreprise, donc toute l'analyse du génome humain notamment a été une entreprise qui a souvent été taxée de réductrice pour appréhender ce qu'est un corps, ce qu'est un être humain, ce qu'est un organisme en général, puisqu'il y avait cette idée qu'une fois qu'on aurait décrit ce génome, qu'on l'aurait analysé, on pourrait à terme en fait avoir toutes les clés qui nous permettraient d'expliquer comment fonctionne un organisme, comment un organisme peut tomber malade, etc., etc. Donc il y avait une visée un peu réductrice, c'est-à-dire qu'un organisme pourrait s'expliquer par son génome. Et là, ces machines qui ont été fabriquées justement pour décrire et analyser ces génomes, ben, elles ont finalement donné lieu à une découverte plutôt inattendue, c'est que finalement la plus grande partie du génome que nos corps, là on va rester sur le corps humain, que les corps humains portent, ce ne sont pas des génomes justement spécifiquement humains, mais des génomes microbiens. Et alors là j'insiste pour microbes, il y a plusieurs types de microbes, il y a les bactéries effectivement, tu les as évoquées, mais il y a également les virus, les champignons, etc. Donc il y a toute une... On s'est rendu compte en fait que finalement on était beaucoup plus nombreux que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que le corps humain, on ne pouvait plus tenter, enfin il était beaucoup plus difficile en fait d'imaginer pouvoir le décrire intégralement dans ses modes de fonctionnement, de développement, etc. à partir de son génome, puisque, chose inattendue, 99%, pardon, c'est atavisme bruxellois, 99% du génome qu'un corps humain porte est bactérien, donc c'est énorme. Et quant aux cellules qui composent un corps humain, alors il y a eu toute une série d'estimations, on avait 10 fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. Bon, ces estimations sont revues à la baisse, on est à 1,3-1,4 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc d'un coup, on s'est rendu compte que le corps, en fait, était tout autre chose que cette individualité ou cette entité discrète repliée sur elle-même, ou qu'on pourrait tout du moins singulariser. Non, en fait, un corps humain, bah, c'est des tas d'espèces différentes. C'est un agencement multispécifique, hein, pour utiliser un terme un peu technique. C'est un écosystème. Il y a des termes qui ont été inventés pour ça. Les scientifiques parlent d'holobionte, notamment, pour qualifier donc cet être symbiotique, qui est donc beaucoup plus complexe, semble-t-il, et certainement beaucoup plus intéressant, du coup, que ce corps ou cet organisme humain que les technologies du génome avaient l'habitude d'interroger jusqu'alors.
Mais agencement multispécifique, c'est-à-dire qui emmêle, enchevêtre des espèces différentes, être symbiotique, tout ça, on y reviendra. Est-ce que peut-être tu peux aussi nous dire à quoi servent. Enfin, quelle est la fonction, ou quelle est, même en dehors d'une fonction, quelle est l'activité du microbiote ?
Alors ces microbes, ils font beaucoup de choses. Ça va être difficile là de... Bon, premièrement, si on s'arrête un petit instant simplement sur le microbiote intestinal, les bactéries jouent un rôle fondamental dans la digestion des aliments que l'on ingère, notamment. Sans ces bactéries, il y a toute une série de composés que nous serions tout simplement incapables en fait, de digérer. Donc, fonction de digestion. Mais elles ont aussi un rôle immunitaire, c'est-à-dire qu'on suppose très fortement qu'elles ont pour rôle notamment d'entraîner le système immunitaire, ce système qui nous permet qui permet au corps de se maintenir en bonne santé, elle l'entraîne, lui permettant notamment de différencier un ami d'un ennemi. Donc ces bactéries ont un rôle dans la production du système immunitaire. Je prends une idée qui me vient, parce que moi c'est quelque chose qui m'avait frappé, mais par exemple une vache ne mange pas de l'herbe, une vache mange les bactéries qui digèrent en fait l'herbe. Donc là en fait une vache, elle cultive un microbiote qu'elle va ensuite ingérer. Mais ce n'est pas l'herbe qu'elle ingère, c'est bien ces bactéries qu'elle cultive. Donc pour donner un peu une idée de ça. Et un autre point aussi, là j'en évoque un rapidement aussi, c'est qu'il y a une hypothèse de plus en plus forte, c'est que les bactéries, ce microbiote conditionne aussi le goût qu'on peut avoir, des choses, la manière de l'odorat qu'on peut avoir. Je vous raconte une toute petite histoire. Il m'est arrivé une fois de faire un jeûne pendant 10 jours, et au sortir de ce jeûne, donc le jeûne en fait c'est quand même quelque chose d'assez radical, hein, la manière dont ça va transformer votre microbiote. Quand j'ai repris mon alimentation, progressivement j'ai eu des goûts nouveaux. Et le chocolat noir, que je n'aimais pas auparavant, bah, j'ai beaucoup de mal à m'en passer depuis. Donc, quand je vous dis que les bactéries, elles fabriquent un peu ce que nous sommes, comment nous sentons, etc., il semblerait aussi, mais tout ça est vraiment de l'ordre de l'hypothèse, hein, qu'elles participent de la manière dont nous nous comportons. C'est-à-dire qu'elles favorisent certains comportements et pas d'autres. Et je trouve ça intéressant aussi, parce que l'hypothèse de l'inconscient, hein, qui est élaborée notamment en fin 19e par le psychanalyste Freud, ben là, d'un coup, il est peuplé de bactéries. C'est-à-dire que notre inconscient est aussi composé, c'est un inconscient bactérien.
C'est-à-dire non seulement qu'il y a... un imaginaire bourgeois et vieillard, voilà. mais bactérien.
Exactement, il n'y a pas que papa-maman, il n'y a pas que effectivement, l'imaginaire bourgeois de Vienne, il y a aussi toutes ces bactéries qui nous font nous comporter, sentir, imaginer peut-être aussi d'une certaine façon et pas d'une autre.
Et alors, d'entendre ça, que notre manière même d'être au monde est médiatisée par des bactéries, des virus, des microbes. Qu'est-ce que c'est de nouveau ? Est-ce que c'est nouveau en termes de savoir scientifique, médicaux ? Si c'est nouveau, enfin, qu'est-ce que ça a de nouveau ? Qu'est-ce que ça change sur... tu as un tout petit peu commencé à nous en parler quant à ce que ça change par rapport à notre conception et représentation d'un corps, d'un organisme. Et qu'est-ce que ça change aussi sur ce qu'est un microbe, ce qu'est une bactérie, sur qu'est...
Alors, pour la nouveauté, c'est compliqué. Parce que justement, la nouveauté, c'est un des objets, notamment des sciences sociales. Hein, c'est-à-dire que les scientifiques présentent ça, enfin les scientifiques, la manière dont les travaux scientifiques aujourd'hui sont diffusés, présentent ça vraiment comme une nouveauté. Là, j'en profite juste pour placer une expression qu'on va peut-être déplier plus tard, c'est pas sûr. Mais le microbiome ou le microbiote, ces recherches sont souvent représentées comme la nouvelle frontière de la médecine, c'est-à-dire un nouveau terrain à conquérir. Et ça vient et c'est présenté comme quelque chose qui vient radicalement bouleverser effectivement ce qu'est un corps, ce qu'est une maladie, ce qu'est un microbe, etc. Mais avant de voir comment effectivement ces choses-là viennent bouleverser l'appréhension des corps, des pathologies, des micro-organismes, simplement marquer le fait qu'en fait il y avait des tas de pratiques relativement mineures hein, historiquement, notamment un bon dentiste. Les dentistes ont une connaissance des microbiotes buccaux. Enfin, un bon dentiste, quand vous avez un problème à la dent, va vous parler effectivement du peuplement microbien hein, de votre bouche et ça va lui permettre notamment d'expliquer certaines pathologies, pourquoi vous faites plus de tartre ou des caries, etc. etc. Et ça depuis en gros le début du XXe siècle. L'écologie microbienne, c'est une science qui a inventé la première moitié du XXe siècle également, prenait au sérieux en fait la façon dont des écosystèmes étaient littéralement façonnés en fait par des écologies d'êtres invisibles, donc que sont les microbes, en tant qu'acteurs vraiment à part entière. Pour remonter un tout petit peu aussi, même Pasteur, en fait, on se présente souvent Pasteur comme celui qui a inventé ou découvert les microbes. Moi, j'aime bien dire inventé, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aussi juste après. Et donc, il l'a inventé notamment comme un microbe responsable hein, des pathologies, c'est un peu ça, notamment l'invention pasteurienne majeure. Mais Pasteur avait très, très bien compris également que les microbes avaient une fonction beaucoup plus ambivalente. Notamment, il bossait aussi pour l'industrie de la bière, etc. Donc les microbes étaient déjà enrôlés dans toute une série de pratiques autres. Et on avait, les tas de pratiques scientifiques avaient bien pris la mesure de l'importance en fait, de ces microbes. Donc nouveauté, oui, parce qu'aujourd'hui, ça devient en gros des savoirs qui tendent à dominer en biologie, mais nouveauté non, ou tout du moins relativement, parce que des tas d'autres savoirs, j'en ai fait qu'en évoquer ici quelques-uns, avaient déjà pris cette mesure de l'importance en fait, des microbes dans la constitution des organismes, des écosystèmes, etc. Alors, en quoi ça renouvelle ? Donc, pour les corps, effectivement, on l'a vu très brièvement. Donc, les corps, c'est plus des entités, sont plus envisagés comme des entités discrètes ou individuelles, mais comme des écosystèmes. Mais autre chose très intéressante aussi, je crois, c'est que du coup, le corps universel, qui est une sorte de présupposé de la médecine scientifique depuis la fin du 19e siècle. Le corps universel, c'est quoi ? C'est l'idée que tous les corps fonctionnent dans leur physiologie, dans leur biologie générale, de façon relativement identique. Et bien, cette idée-là, elle est remise en question par ces recherches sur le microbiote, puisqu'en fait, on constate, en analysant des microbiotes de populations différentes, que les corps sont très... Si on intègre les microbes, que les corps sont très différents d'une région à une autre du globe, selon les modes de vie qui sont ceux des communautés analysées, étudiées. Donc le corps universel est quelque chose qui est en train de s'effondrer, parce qu'en fait, les corps fonctionnent autrement du fait du peuplement microbien qui diffère donc, d'un corps à un autre. Donc les corps ne sont plus universels, mais ils sont situés, et ils sont situés donc
dans leur milieu ou dans leur environnement, qu'il faut entendre ici aussi comme mode de vie, etc. Mais aussi historiquement, parce que c'est un des points, effectivement, qui, c'est un peu le point d'accroche de ma recherche, c'est que l'on constate que les microbiotes, notamment des populations urbaines européennes, sont radicalement altérées. Et ce qui viendrait expliquer notamment toute une série de pathologies chroniques qui caractérisent ces populations. Donc en fait, notre corps a aussi intégré l'histoire qui est la nôtre. Donc ils sont situés historiquement et environnementalement, voilà, pour le dire rapidement. Donc ça, c'est pour une autre appréhension des corps. Pour une autre appréhension des maladies, c'est que les maladies, même les maladies infectieuses, ne sont plus considérées comme soit des dérèglements physiologiques dû à une altération de glandes, de gonades ou de fonctionnement de certains organes, soit comme la rencontre entre un agent pathogène et un corps, mais comme des dérèglements écologiques. C'est-à-dire que les microbiotes altérés sont susceptibles d'expliquer la prévalence qu'ont certains corps à être plus facilement malades quand ils rencontrent un microbe pathogène, je mets des guillemets, parce qu'en fait... où les maladies chroniques sont expliquées, notamment maladies de métabolisme ou autres, comme effectivement une perturbation écologique. Donc, autre appréhension de la santé, autre appréhension des corps, mais également autre appréhension des micro-organismes et des microbes, puisque le point de vue relativement dominant dans les politiques de santé publique qui fait du microbe un ennemi de la santé publique, et on voit les effets qu'ont eu cette appréhension du microbe, puisque l'eau que nous buvons est chlorée, les eaux usées sont traitées. Toute la ville moderne est fabriquée, en fait, notamment par ces savoirs hygiénistes qui considèrent le microbe comme un ennemi, donc, duquel il faut absolument le plus possible pouvoir s'éloigner. Et ben, ce microbe devient aujourd'hui un potentiel allié donc, pour restaurer des écologies perturbées et donc des santé vacillantes et éventuellement devenir en fait la nouvelle panacée, l'objet de nouvelles thérapeutiques susceptibles donc de guérir les maux de ces sociétés urbaines majoritairement touchées donc par des maladies chroniques, etc.
Oui, donc on sent que derrière quelque chose qui serait des découvertes peut-être médicales, scientifiques, il y a aussi un branchement, une articulation avec toute une actualité qu'on connaît bien, écologique, tout le désastre écologique en cours, crise de la biodiversité, disparition. Et c'est comme si... le constat qui commençait à être quand même sérieusement bien documenté, qui se documente jour après jour un peu partout, dont on est tenu informé à mesure, là, était aussi comme reporté dans cet espace censément intérieur qui jusque-là était, devait être l'apanage d'un individu, une sorte d'atome, et qui tout à coup devient un espace qui est un espace ouvert, peuplé, enchevêtré, et qui est lui-même un espace en danger et en péril, si je comprends bien.
Merci de présenter les choses comme ça, parce qu'effectivement, c'est un peu un point d'accroche aussi quand j'explique mon terrain de recherche, c'est de dire effectivement, aujourd'hui, il est vraiment difficile, par certains sceptiques des productions scientifiques, de nier le fait qu'il y a un effondrement de la biodiversité absolument colossal qui touche effectivement les environnements. Différents types d'environnements planétaires, effectivement, cet effondrement de la biodiversité a également lieu dans nos corps. C'est-à-dire qu'effectivement, nos corps, malgré tous les mécanismes de protection qui ont été mis en place par la médecine, etc., ne sont pas indemnes en fait, de la transformation des environnements que nous avons fait subir à la planète. Et ça, je crois que c'est important parce que ça me fait penser à... Il y a cette notion qui est apparue... Une quinzaine d'années, peut-être 20, je ne sais plus exactement, pour qualifier un peu l'époque nouvelle dans laquelle nous serions entrés, c'est cette notion d'anthropocène qui fait de l'homme, de manière générale et générique, ce qui pose d'ailleurs problème dans cette appellation, l'acteur principal en fait, de transformation de la planète à l'échelle globale. Donc on parle d'anthropocène. Et ce qui est intéressant, c'est que cet anthropocène, du coup, il a lieu dans un anthropos, c'est comme ça que j'en parle dans ce papier, dans un anthropos détraqué. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui transforme l'environnement en étant indemne de ces transformations, c'est un homme, toujours est-il si on peut expliquer les choses de cette manière-là, qui essuie les conséquences en fait, dans son corps de ces transformations radicales.
Je me rappelle d'une citation qui m'avait beaucoup marqué dans un livre de Jean-Pierre Sonigo, qui est signé avec Alain Coupiat, je ne sais plus si c'est Alain, mais qui, ni Dieu ni gêne, et qui avait cette formule sublime, mais aussi inquiétante, du coup, si précisément on la rapporte à la question du désastre écologique, qui est « mon corps est une forêt ». Et « mon corps est une forêt » précisément parce que il est un assemblage multispécifique, symbiotique, comme tu le disais, mais aussi du coup fragile et potentiellement contingent, c'est-à-dire que tous les équilibres qu'il compose peuvent être déréglés. Et peut-être qu'on peut de là glisser à quelque chose qui serait le contexte de ta recherche, c'est-à-dire on a compris là, d'une part qu'est-ce que c'était le microbiote, on comprend à peu près son actualité, comment est-ce qu'il se branche aussi sur toute une série de préoccupations au fond très contemporaines. Et est-ce que tu pourrais nous décrire le contexte de ta recherche qui se fait sur fond d'une multiplication de programmes de recherche aussi, à grande échelle, pour faire quelque chose, un drôle de geste qui consiste à aller collecter des microbiotes, alors j'allais dire aux quatre coins de la planète, je ne suis pas sûr, dans des coins assez particuliers.
Oui, du coup, effectivement, une des réponses, c'est-à-dire que la communauté scientifique, une partie de cette communauté qui travaille sur le microbiote, a rendu compte de l'altération des microbiotes des populations européennes, occidentales, urbaines, etc., notamment en les comparant à des microbiotes d'autres types de populations, rurales notamment, mais aussi de, et là je mets des guillemets, de chasseurs-cueilleurs. Des populations qui, censément, ont été relativement indemnes des modes de vie industriels dans lesquels nous sommes pris. Et en comparant ces microbiotes, ils se sont rendus compte effectivement que les microbiotes de ces populations dites de chasseurs-cueilleurs sont extrêmement riches. Dans ces microbiotes, non seulement il y a beaucoup plus de microbes, mais en plus il y a des variétés, des souches, des espèces qui n'existent plus dans les microbiotes des populations urbaines. Et c'est là qu'en fait le lien s'est fait, c'était de se dire qu'en fait peut-être qu'on peut expliquer effectivement cette recrudescence de maladies chroniques, maladies du métabolisme, des intestins irritables, toute une série de pathologies. On va jusqu'à l'autisme, entre guillemets aussi, pour traiter ce syndrome de pathologie. Ben, ces maladies chroniques trouveraient leur raison dans cette altération des microbes, des microbiotes intestinaux notamment. Et donc, réaction d'une partie de cette communauté scientifique, il faut aller sauver ces microbiotes avant qu'ils ne disparaissent. Ouais, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas par où prendre les choses. Sauver ces microbiotes avant qu'ils ne disparaissent. Bon. Par où prendre les bons là. Du coup, pour sauver ces microbiotes, comment ils s'y prennent? En gros, il y a deux entreprises qui se sont constituées, une il y a 2-3 ans, ça s'appelle le Global Microbiome Conservancy, qui est hébergé par un laboratoire de biologie du MIT à Boston, donc du Massachusetts Institute of Technology. Et une autre qui vient juste de se lancer, alors là, je vous mets les images pour ceux qui sont présents ici. Simplement, c'est des images, si pour les auditeurs, vous vous rendez sur les sites donc, du Global Microbiome Conservancy. Voilà, il y a un site, vous pouvez voir, qui est documenté, qui documente leurs pratiques. Et puis, une autre entreprise plus récente qui s'appelle The Microbiota Vote. Alors, l'image est intéressante à décrire parce que sur cette image, on voit un bunker, en fait, dans un lieu qui semble très froid, glacé
l'hiver
même.
L'hiver qui vient.
Et donc, bon. Oui, là, je ne sais vraiment plus par où prendre des bouts parce qu'il y a tellement de choses à déplier. Bon, et donc ils vont se rendre auprès de toute une série de populations donc dites de chasseurs-cueilleurs. Alors aux États-Unis, c'est notamment une communauté de Cheyenne qui a été visitée. Donc ils vont récolter leurs selles. Ils vont les récolter, ils vont leur faire subir toute une série de traitements de manière en fait à pouvoir récupérer les bactéries qui les peuplent. Les récupérer, puis ensuite les ramener dans leur laboratoire au MIT. Ou dans ce bunker qui n'est pas encore construit, mais qui là c'est un appel à projet. En fait, ils veulent fabriquer une sorte de grande banque de microbiotes sur le même modèle que la banque de graines qui est à Svalbard en Norvège. Donc pour les mettre dans des congélateurs et les conserver, alors les analyser, les caractériser les bactéries qui composent ces microbiotes, et ensuite les congeler de manière à ce que si ils en venaient à disparaître, eh bien, on puisse disposer de ces microbiotes pour éventuellement, par la suite, repeupler, restaurer nos intestins à partir de ces microbiotes qui ont été collectés donc, sur toutes ces populations.
Je lis hein, le comment appeler ça, la mission principale de ce Global Microbiome Conservancy, c'est collecter et préserver la biodiversité des microbes intestinaux humains pour les générations futures. Ouais. Et je crois que c'est ce pour les générations futures qui toi te fait réagir. Et
ouais, il y a ce qui me fait réagir, c'est effectivement ce que je disais avant, des microbiotes qui vont disparaître. En fait, ces recherches partent du postulat que ces microbiotes vont immanquablement disparaître. Or, premier point, pourquoi ils nous disent cela? Ils nous disent cela, là, je passe une autre image qui vient du site des Nations Unies.
Et juste pour décrire pour tous nos auditeurs et auditrices.
On voit sur cette image, alors je ne sais pas quelle est la ville qui est en photo, mais en tout cas le titre de l'article qui suit, c'est 2,5 milliards de personnes de plus habiteront dans les villes d'ici 2050. Donc ces microbiotes vont disparaître, pourquoi? Parce que toutes ces populations de chasseurs-cueilleurs, toujours entre guillemets, vont immanquablement, donc c'est le postulat de base de ces recherches, rejoindre nos modes de vie, tout du moins des modes de vie urbains. Il y a une sorte d'inéluctabilité de l'histoire. Et effectivement, c'est là que moi, ça me pose un tout petit peu problème. Parce que, en fait, du coup, en tant qu'anthropologue ou philosophe, je ne sais pas trop comment caractériser ce que je fais, mais c'est cette temporalité du désastre en cours qui est problématique. Puisque les scientifiques, plutôt que de se dire, bon, en fait, l'urbanisation, l'industrialisation, ça, ils le disent, hein, alterne nos microbiotes. Conséquence de ça, il faut vite sauver, congeler ces microbiotes avant qu'ils disparaissent. Donc, au lieu de se dire ça, je me suis dit, ils pourraient peut-être se dire, mais peut-être qu'en fait, là, ils ont une voix extrêmement importante. Ils sont en train d'étudier, de caractériser un problème majeur. Et peut-être qu'en fait, ces scientifiques pourraient nous dire, ralentissons un tout petit peu. L'industrialisation, non seulement, effectivement, participe à un effondrement de la biodiversité majeure dans les environnements, mais également dans les corps. Donc, ils pourraient, d'une certaine façon, plutôt que de les sauver et de les congeler, se dire, bon, là, notre mode de vie est problématique. Et ça, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas, je crois, pour des raisons, en fait, il y a des tas de raisons, hein, là aussi, je ne vais pas en développer, mais si on reste sur la question des temporalités, c'est que je crois qu'on est tous un peu là, enfin, c'est une hypothèse assez forte, quoi. Un peu travaillé par une forme de temporalité qui caractérise nos sociétés depuis au moins un siècle et demi, c'est celle du progrès. C'est-à-dire que les problèmes présents, ou si j'ai envie d'être un peu plus provocateur, je dirais le désastre présent, trouvera sa solution dans le futur par l'amélioration des connaissances et par la production de nouvelles technologies. Et donc le progrès, en fait, est une puissante histoire qu'on se raconte qui vient légitimer, d'une certaine façon, ou amoindrir le désastre actuel au profit d'un futur hypothétique, dont d'ailleurs on ne sait rien, mais qui viendra effectivement réparer ce que le progrès lui-même, finalement, n'a cessé de détruire. Et ce que j'ai trouvé très, très... Autre part, en fait, finalement, ces scientifiques se sentent davantage responsables de ce futur hypothétique que du présent dans lequel ils sont. Si bien, en fait, qu'ils peuvent, et en toute bonne foi, parce qu'encore une fois, je les ai rencontrés, je ne suis pas en train de décrire des mauvaises personnes hein, en disant ça. Je suis en train de décrire des scientifiques qui sont à l'œuvre dans le monde qui est le leur aussi. En toute bonne foi, ils pensent faire le bien pour l'humanité. Ça, c'est les termes qu'ils utilisent. Hein. Enfin, cette idée aussi que le scientifique fait le bien pour l'humanité, c'est un gros problème. Bon, passons. Mais c'est... Parce qu'ils vont sauver des choses qui sans eux, en fait, disparaîtraient. Et donc, cette temporalité, en fait, pour moi, elle est extrêmement problématique. Parce que, bon, après, je suis en train de m'en mêler un peu les pinceaux, là, mais je crois qu'en fait, une des raisons pour laquelle nous ne sentons pas le désastre en cours, mais là tout, c'est aussi bien le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est que nos sociétés se sont protégées avec des infrastructures. C'est-à-dire quand s'il gèle en France, ben, on aura des pommes qui viendront d'ailleurs, on ne s'en rendra même pas compte s'il n'y a pas de pommes en France, parce qu'il y a tout un réseau infrastructurel qui nous donne l'impression qu'on est un peu indépendant, on s'est émancipé hein, des variations climatiques et saisonnières, etc. Donc on s'est protégé via l'invention de toute une série de dispositifs, infrastructures, etc., mais aussi par les histoires qu'on se raconte. Et je crois que si on veut très sérieusement sentir ce qui nous arrive aujourd'hui, il faut notamment apprendre très sérieusement à se défaire, en fait, non seulement de cette histoire du progrès, et plus généralement, effectivement, de cette déconnexion hein, au présent qui caractérise plus généralement nos modes de vie et notre sensibilité.
Mais je fais un parallèle là avec aussi une des raisons de ce plateau radio, de ton invitation, qui est l'articulation avec les publications au cours de la saison quant à la revue Corps Objet Images, qui cette année a pour thématique l'attention. Et on a publié, ou on publie, ce week-end même d'ailleurs, je crois, un article de Didier Debesse qui s'intéresse au récit des non-humains, qui se pose la question de est-ce que la question du récit est un problème que confisquent les humains, et sinon, alors, quelles peuvent être la forme de ces récits? Et là, tout à coup, ce que j'entends dans ce que tu nous racontes, c'est effectivement que si on se met à l'écoute d'un microbiote, enfin, je dis à l'écoute, c'est une image, si on va mettre les mains dedans, je ne sais pas comment ils s'y prennent d'ailleurs, ça pourrait être intéressant que tu nous racontes, on voit qu'ils ont un récit à nous raconter qui est le récit de nos modes de vie, le récit de la richesse d'un milieu, de nos interactions avec ce milieu. Et je me dis, tiens, c'est étonnant parce que ces scientifiques, ils produisent, ils participent à la production de ce récit-là quand ils nous disent la qualité du microbiote de ces populations d'Afrique, ces soi-disant chasseurs-cueilleurs, provient précisément de leur mode de vie, provient d'une certaine qualité de contact, de continuité entre eux et leur environnement. Mais à l'inverse, ils n'ont pas l'air